Hors cadre, les podcasts décalés du magazine Cuit. Jean-Félix Aquavive et Laurent Marcangeli ont accepté l'invitation du magazine Cuit dans le cadre de notre dossier consacré à l'esprit politique. Pour rappel, Jean-Félix Aquavive est député de la 2e circonscription de Haute-Corse et siège à l'Assemblée nationale au sein du groupe LIOT, Liberté Indépendant, Outre-mer et Territoire. Il est aussi conseiller territorial et fait partie de la majorité à l'Assemblée de Corse. Laurent Marcangeli est ancien maire d'Ajaccio, député de la 1e circonscription de Corse du Sud et siège à l'Assemblée nationale au sein du groupe Horizon qu'il préside. En 2023, ils ont formé un duo remarqué à la tête de la commission d'enquête parlementaire relative à l'assassinat d'Yvan Colonne. Et nous voulions, en quelque sorte, reformer ce duo le temps d'un échange libre, sincère et convivial. L'idée était de les interroger ensemble, non pas pour évoquer ce dossier ou même commenter l'actualité insulaire, mais pour en connaître davantage sur leurs engagements et leurs parcours respectifs, leur rapport personnel à la politique ou leur conception de la pratique du pouvoir. Pour ce faire, nous avons préparé une dizaine de questions qu'ils ont accepté de se poser mutuellement. Écoutons-les.
Comment est née votre conscience politique? À quel âge êtes-vous entré en politique? Y a-t-il eu un élément déclencheur particulier, une rencontre?
Donc, ma conscience politique s'est éveillée tôt, puisque j'étais collégien. C'était à l'époque où Jacques Chirac était candidat à l'élection présidentielle. Je n'ai pas baigné dans un environnement où la politique était très présente. Tout juste ma mère avait un engagement syndical fort au STC. Mais ce moment il s'est imposé à moi. J'ai du mal à l'expliquer en réalité. La question pose éléments déclencheurs. Oui, il y a plein d'éléments déclencheurs. Il y en a plein. Il y a le fait de s'intéresser au monde dans lequel on vit, à la situation du moment. Je crois que la rencontre, c'est surtout une rencontre avec soi-même, la politique. Il y a des gens qui comptent, tout le monde compte. Ça peut être un anonyme ou une anonyme, ça peut être quelqu'un qui fait de la politique, qui a une forme de mentorat, même si je n'en ai pas véritablement eu au bout du compte. C'est surtout une rencontre avec soi-même et avec ce qu'on a envie de faire. Et d'ailleurs, l'action politique, elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut être dans l'ombre. Et il y a des gens qui font des carrières complètes dans l'action publique, mais qui ne vont pas sur le devant de la scène. Et après, elle peut être comme nous l'avons choisi tous les deux, sur le devant de la scène et en pleine lumière. Donc oui, j'ai commencé jeune, j'ai été militant très jeune, j'ai été élu assez jeune, puisque mon premier mandat, je l'ai eu, j'avais 27 ans, c'était conseiller municipal d'Ajaccio. Et l'élément déclencheur, c'est plutôt l'élection présidentielle de 1995, où il y avait cette fameuse campagne où Chirac était donné perdant, où il était plus ou moins lâché par ses amis, et où il a remonté la pente avec une abnégation et une volonté de déjouer les pronostics qui, pour ma part, m'avaient particulièrement impressionné. Et comme il l'était donné perdant, je me suis pris un peu d'affection pour lui. Et je pensais souvent, parce que c'était une époque en plus où je lisais Le Comte de Monte Cristo, puisque j'étais adolescent, je pensais qu'il allait revenir et pas se venger, mais prendre la revanche. Et ça s'est fait, voilà, tout simplement.
Alors effectivement, bon, on a pour point commun avec Laurent d'avoir commencé très jeune, hein, au bout du compte. Même si moi j'ai une petite différence, c'est que j'étais plutôt dans une famille très engagée politiquement, puisque mon père était engagé avec Max et Edmond dès les années 60 dans ce qui était le régionalisme, l'autonomisme, le nationalisme. Donc on va dire que tout petit, j'étais dans les meetings d'Edmond dans les années 75, même avant Allier. Et d'ailleurs, j'ai quelques images du congrès de Corté avant les événements d'Allier. J'étais très très petit à ce moment-là, malgré tout, même si je suis vieux. Mais donc, on va dire que c'est une trajectoire familiale. Mais en même temps, c'est vrai que le fait qu'il y ait une trajectoire familiale et un environnement, je rejoins le propos, renvoie à la rencontre avec soi-même. Parce que on s'engage en politique avec sa propre vision individuelle, même dans une famille politique ou même dans un même environnement familial, avec ses nuances et ses différences d'ailleurs. Par exemple, je n'ai pas toujours été d'accord avec ce que disait Edmond Max, hein. Clairement, parce que j'étais engagé lycéen plutôt dans ce qui était la mouvance de la lutte de libération nationale, donc qui n'était plus la mouvance de l'UPC, on dirait, des autonomistes à ce moment-là. Bon. J'ai été amené à conduire une liste territoriale en 1998. Bon, d'abord, j'étais syndicaliste étudiant. Territorial en 1998, pendant la campagne qui a vécu, où on a vécu l'assassinat du préfet Rignac aussi, hein, parce que c'est en plein campagne territoriale qu'intervient cet assassinat. Et ensuite, évidemment, que nous avons aussi des gens qui ont compté autour. Bon, j'ai parlé de Max Dedmont, mais il y a aussi des gens et des amis qui ont compté. Certains sont là, d'autres ne sont plus là. Des parents, des drames aussi, sans vouloir trop surjouer le côté dramatique dans le fait nationaliste. Il y a eu aussi des éléments douloureux qui ont fait que ça peut donner pour un jeune, à ce moment-là, une dimension de mission, même si après, effectivement, on fait son propre chemin, on fait ses propres bilans, on fait ses propres étapes. Mais on a, je pense, pour point commun d'être engagé jeune et d'avoir fait, à travers ce chemin, une rencontre avec soi-même sur ce qu'on devait accomplir. Je crois que ça, c'est clair, je me retrouve dans ce propos.
Pourquoi certains s'engagent en politique et d'autres pas? Existe-t-il, selon toi, une prédisposition pour la chose publique?
Ah, ça, c'est... Moi, je serais tenté de dire que tout individu passionné par ce qu'il fait, dans quelques domaines que ce soit, artisanat, culture, économie, peut, ou pas, mais peut, rejoindre le chemin politique par vocation, comme prolongement de sa passion. Je pense que les gens passionnés ne peuvent pas ne pas s'interroger sur la chose publique et politique en général, de manière intéressée, c'est sûr, lorsqu'on est dans un domaine particulier, mais même peuvent être tentés de ou franchir le Rubicon de s'y engager personnellement. Je crois qu'il y a quand même un côté positif d'investissement en choses publiques, cette passion, cette idée de mission, cette idée de transmission, de construction. Alors, peut-être que j'ai un propos un peu trop beau en la matière, il y a aussi les travers de la politique, mais globalement, je crois qu'en cheminement individuel, c'est possible pour les gens qui sont dans cette dimension de passion pour ce qu'ils font. Après, il y a certainement des aléas de la vie ou des circonstances qui peuvent faire en sorte que il y a aussi l'introspection individuelle, on revient à la première question, qui fait que. Mais je situe un petit peu comme ça la possibilité ou pas de s'investir dans la chose publique.
Mais pourquoi certains s'engagent? Moi, je pense d'abord, il y a la politique, c'est pas forcément la même chose d'être maire d'une petite commune de montagne que d'être parlementaire, comme nous le sommes aujourd'hui, puisque toi, tu as été les deux. C'est de la politique malgré tout, c'est la vie de la cité, c'est... Donc allez, même demain faire une action associative, c'est un peu politique.
Ah ouais.
C'est pas forcément une action qui est dans un parti ou dans un mandat électif. Bon, pourquoi certains ne s'engagent pas? Parce que d'abord ça fait peur. D'abord, la politique a mauvaise image, les politiques ont une mauvaise image. Donc, nous sommes dépréciés, nous sommes parfois particulièrement critiqués, des fois à juste titre, des fois je le pense de manière un peu excessive et à tort. Ouais. Et puis après, il y a des gens qui ont peur parce que la politique prend beaucoup. Elle prend beaucoup sur son temps personnel, elle prend beaucoup sur le temps qu'on a vis-à-vis des gens qu'on aime. Elle suscite beaucoup de critiques, beaucoup de convoitises. C'est pas si simple que ça. Donc, y a des gens qui pourraient, mais qui ont peur et qui, donc, d'une certaine manière, n'ont pas envie d'être confrontés à ça. Et d'autant plus, avec les années que nous vivons aujourd'hui, avec des progrès, y a une immédiateté, c'est-à-dire qu'une photo peut être détournée alors qu'on est dans un lieu... en privé, avec des amis, sa famille, et on peut être, on peut tomber dans une forme de pression de l'instant, et les réseaux sociaux n'y sont pas non plus pour rien. Je crois que les gens ont pas envie, des gens qui ont envie d'avoir une vie tranquille, en règle générale, ils s'engagent pas dans la politique. Et le conseil que je leur donnerais, s'ils ont envie de vivre tranquillement, c'est de pas en faire, parce que c'est pas forcément ce qui arrive lorsqu'on en fait. Une prédisposition. Alors, encore une fois, je dis bien, d'abord, la politique, c'est servir. Si on la prend au premier sens du terme, c'est d'être utile. Il faut quand même avoir cette envie de ne pas penser qu'à soi, même si souvent la caricature de l'homme ou de la femme politique, c'est d'être un grand ou une grande égoïste. C'est surtout, au contraire, essayer d'apporter à la collectivité, d'apporter aux autres. C'est comme voilà, quand on s'engage dans une association ou même quand on s'engage dans une voie religieuse. C'est très sacerdotal, donc il faut être disponible. Après, ça dépend aussi du degré d'investissement et du degré de responsabilité. Quand vous êtes conseiller municipal dans votre village, vous n'allez pas vous faire inviter à des plateaux, sur des plateaux de télé ou radio. Vous n'allez pas avoir besoin de faire beaucoup de communication. Vous allez juste vivre votre mandat et essayer d'être dans le service au quotidien de vos concitoyens. Après, c'est sûr que si on veut à un moment être à un certain niveau d'action publique, il y a un certain nombre de choses qui sont nécessaires. Il faut plutôt bien s'exprimer, surtout dans un monde de communication comme celui d'aujourd'hui. Il faut surtout avoir la prédisposition principale. Ça vaut pour un petit mandat de conseiller municipal comme du mandat du président de la République. Il faut quand même avoir un certain sens du contact avec autrui, parce que là, avant tout, c'est les gens qui choisissent. Donc voilà, il y a une partie de prédisposition, même si je pense que normalement l'être humain, il a en lui, par vocation, la fonction à un moment d'être en société, d'être en collectivité et donc de faire de la politique à un moment ou à un autre.
C'est un animal social, oui. L'être humain. Je rejoins l'idée qu'effectivement, par rapport à la tranquillité, on vit une période extrêmement compliquée où tous les coups deviennent permis. Trop permis, et effectivement, ça peut rebuter notamment les jeunes générations de faire de la politique, pas que les jeunes générations, hein. Et que si on veut sa tranquillité, il vaut mieux pas faire de politique, c'est sûr. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une dimension d'intérêt général et de mission. C'est encore à moi, je crois.
Oui, la troisième.
Avez-vous ressenti un décalage entre l'idée que vous faisiez de la fonction politique et la pratique du mandat d'élu ?
Forcément, comme tout dans la vie. J'ai été avocat. L'idée que je me faisais du métier d'avocat avant de l'être n'était pas forcément la bonne.
Bien sûr.
Donc il y a un décalage. Il y a un décalage entre ce qu'on pense et ce qu'on vit une fois qu'on est, je dirais, au cœur de l'action. Donc oui, il y a un décalage. Après, il n'était pas monstrueux parce que j'avais quand même baigné depuis plus d'une décennie dans le militantisme, et je fréquentais des femmes et des hommes qui étaient élus, qui avaient des responsabilités.
Bien sûr.
Donc, j'étais pas non plus à tomber de l'armoire. Mais il y a un décalage. Il y a un décalage parce qu'après, c'est sur toi que reposent les responsabilités. Puis plus on monte sur le degré de responsabilité, moi je sais que je compare souvent le mandat de maire à celui de père, à la fonction, au rôle de père. C'est-à-dire, on peut pas savoir avant. C'est-à-dire qu'on le découvre, on fait l'apprentissage et puis on se retrouve tout seul devant la responsabilité. Donc, et ensuite, voilà, la pratique du mandat d'élu, c'est comme tout dans la vie, c'est en fonction de son caractère, c'est en fonction de ses capacités. Je pense avoir été et être l'élu que je souhaitais, que je pensais être. Voilà, je ne pense pas être totalement différent de ce que je pensais être quand je n'avais pas de mandat, et je pensais exercer les choses de cette manière, donc il n'y a pas un grand décalage.
Oui, moi je rejoins l'idée qu'effectivement on ne peut pas savoir avant d'être maire ou père ce qui va se passer. Ça me fait penser à une citation que me disait mon père quand j'étais jeune, que je rejetais. Et si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Donc quand il voulait donner un conseil, sous-entendu, il faut attendre de franchir les étapes pour effectivement apprécier à sa juste valeur les conflits intergénérationnels dans l'action. Et ça vaut en politique, parce que moi je rejoins l'idée que ça ne m'étonne pas que tu dises que tu n'es pas changé entre le moment, changé au sens du fond et de ta perception. Parce que je ressens un peu cette idée-là, de dire que finalement le militant que j'étais n'a pas changé. Simplement, on a appris les contraintes, les temps de latence, les difficultés à mettre en œuvre des projets. Ou entre une idée et sa matérialisation, il suffit pas. On dit souvent en politique, il suffit pas d'avoir raison. Alors chacun voit sa raison à sa porte, mais on a pu avoir ce sentiment-là de dire, je comprends pas, ça devrait aller plus vite, etc. Donc ce genre de cheminement sont des cheminements d'apprentissage normaux finalement, qui sont pas forcément le décalage de la question, c'est-à-dire décalage au sens on s'attendait pas du tout à ça, ou
Non, je pense que c'est le cheminement, c'est un chemin avec des étapes balisées. Et je crois qu'effectivement, on a tous à cœur, avec chacun ses convictions, d'arriver à dire « je vais arriver jusqu'à l'autre bout de la colline à la fin de mon mandat politique ». C'est-à-dire on a un objectif qui fait que, puisqu'on parle pour l'intérêt général, on fait sien le chemin et ses difficultés, et on essaye d'avancer, et on apprend en même temps. Ce qui me fait dire des fois à mon père, bon, tu n'avais pas totalement tort.
Mais il ne se trompe pas souvent, en règle générale, les papas. Parce que je dis souvent mes fils. Moi, j'ai rencontré, en revanche, des gens qui se faisaient une fausse idée et qui ont soit totalement baissé les bras et qui ont dit plus jamais, soit qui pensaient que c'était pas moins bien, oui, moins bien, et qui se sont pris au jeu, alors qu'ils considéraient vraiment qu'ils n'étaient pas faits pour ça. Et qui n'en ferait jamais. Et
ils se sont révélés.
Ils se sont révélés. Voilà. Oui. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, et je pense que c'est valable également pour Jean-Félix, il n'y a pas un décalage, un delta particulièrement.
Pas le Grand Canyon.
Voilà.
Voilà.
Quelle est, selon vous, la principale difficulté à laquelle est confronté un homme politique dans l'exercice de ses fonctions ?
Ouh là là, ça, c'est une question. La principale difficulté. Je ne vois pas deux principales. Il y a des grosses difficultés, effectivement. De grosses difficultés, ça peut être une difficulté entre une contrainte budgétaire quand on fait un projet et l'arrêter de traduire. C'est-à-dire de faire comprendre à la population ou aux gens que le rythme de réalisation n'est pas celui qui pourrait être réalisé rapidement à cause de contraintes, voire héritées du passé ou d'une gestion particulière externe. Difficulté de pédagogie, donc, du chemin. Parce qu'en fait, au moment, voilà, et je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout vrai avec les réseaux sociaux, tout de suite, hein, une communication, il faut le vrai ou le faux tout de suite, donc il y a une espèce d'ambiance, on est tous habitués, hein, les populations et les autres, à des réactions immédiates qui fait que ça accélère le temps et ça accélère les frustrations. Donc là, je crois que c'est une difficulté aujourd'hui majeure qui existait mais qui devient accentuée. Bon, après, la principale difficulté, c'est de faire en sorte que la transmission, c'est une difficulté. Je pense qu'il faut aussi avoir le souci de s'encadrer. Et l'autre difficulté, je pourrais en citer, j'en cite que trois, mais il y en aura d'autres, c'est l'équilibre entre la vie publique et la vie privée. On va pas se raconter l'histoire, tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est une tension permanente.
Oui.
Une tension permanente qui peut être plus ou moins élevée, qui est souvent élevée d'ailleurs, et qui peut faire en sorte qu'on ait donné le sentiment qu'on est sur un fil de rasoir. Voilà.
Moi, la principale difficulté dans l'exercice de mes fonctions politiques, à chaque fois, ça a été le temps. Voilà. Le temps qui passe, en fait, c'est très humain. Hein.
Ah ouais.
Le temps qui passe, on court après le temps. Quelles que soient d'ailleurs les fonctions qu'on exerce, moi, je vois aujourd'hui des réalisations sur le premier canton d'Ajaccio, enfin l'ancien premier canton d'Ajaccio, puisque les cantons n'existent plus, qui ont pris naissance lorsque j'étais conseiller général en 2011. En 2011, c'était pas hier, maintenant, les années passent. Et je vois que du moment où un projet est pensé et que le politique ou la politique lance le projet, il faut du temps parce qu'il y a les marchés publics, il y a les phases d'études, il y a les financements, il y a les aléas. Mm-hmm. Et c'est aussi valable dans le domaine législatif. On voit bien, le temps est souvent un adversaire. Et comme les mandats, même si les gens disent qu'on a des mandats qui sont suffisamment longs, c'est parce qu'ils ne comprennent pas qu'en réalité, les mandats passent très vite,
bien sûr.
Comme tout dans la vie. Voilà.
Bien sûr.
Donc, je crois que la principale difficulté, c'est la gestion du temps. Ouais. Quel que soit d'ailleurs, voilà, c'est une journée, les rendez-vous, la nécessaire concentration à un moment, la réflexion et surtout les prises de décision. Et en réalité, on s'aperçoit que le sablier
court vite.
Il court très vite.
Encore à moi. Opposé politiquement, vous avez pourtant mené un tandem, mais sans accroc. La commission d'enquête parlementaire sur l'assassinat d'Ivan Colonne, aviez-vous des a priori, voire des craintes avant de travailler ensemble ?
Ben oui, c'était le pari aussi. C'était un moment de se mettre à la hauteur. de l'événement, de ce que ça a suscité encore. C'est, j'ai jamais eu peur, moi, de travailler avec des gens qui ne pensent pas la même chose que moi. Jamais. Voilà. Les choses sont claires, on ne pense pas la même chose sur tout. Et je respecte la différence parce que je suis démocrate et il n'y a pas de difficulté avec ça. Ce que je savais, c'était que, eu égard à ce qui s'est passé en Corse suite aux événements qui sont produits le 2 mars 2022, il fallait absolument qu'on soit le plus exemplaire possible, notamment dans le cadre de la commission d'enquête que Jean-Félix a demandé avec son groupe. Et je me suis très vite proposé, puisqu'il faut comprendre que quand il y a une commission d'enquête parlementaire, il y a un président ou une présidente, un rapporteur ou une rapporteure, et que dans la pratique, c'est l'un des deux doit être de la majorité et l'autre doit être de l'opposition. Voilà. Félix est de l'opposition, il a présidé cette commission d'enquête parlementaire, et moi j'en ai été le rapporteur, et il n'y a pas eu une seconde d'hésitation de ma part pour faire partie de ce binôme, parce que c'était ma place, c'était ma responsabilité en tant que député de Corse, d'être dans cette commission et d'y travailler et d'y apporter ma contribution. Des a priori, j'essaye de ne pas trop en avoir dans la vie en règle générale, donc dans la politique, non, je juge sur pièce. Donc, je connaissais peu Jean-Félix, voire presque pas. Je n'ai pas été élu avec lui dans très longtemps à l'Assemblée de Corse, puisque j'ai siégé qu'une seule année. On n'a pas le même parcours militant, on a un petit décalage générationnel, ce qui fait que je n'étais pas forcément à Corté au même moment où lui exerçait des responsabilités, mais je le connaissais. C'est une personnalité publique, on les connaît, quand on s'intéresse à la politique, voilà, je pense que la réciproque est un peu pareil.
Bien sûr.
Et après, c'est vrai qu'on voilà, on découvre les gens d'une autre manière, puisqu'on passe beaucoup de temps ensemble. Voilà. Mais je n'avais pas d'a priori, parce que, et des craintes, alors, franchement, je vais peut-être partir, faire penser aux gens que je suis inconscient. Je ne suis pas très craintif. Voilà. C'est pas un truc qui me correspond. Et je dirais même que si on est plutôt craintif, il vaut mieux pas faire ça. Il vaut mieux être dans un autre domaine d'activité. Et surtout pas, si on est craintif, relever le gant d'une commission d'enquête sur ce sujet.
Bien sûr.
Alors qu'on est élu de la Corse, parce que c'était une accumulation. Donc non, aucune crainte, ni même aucun a priori, seulement une image qui forcément n'est jamais véritablement la même que ce qu'est la personne. Parce que nous autres, responsables politiques ou personnalités publiques, nous vivons quand même avec notre caricature en permanence, avec la personne publique telle qu'elle est présentée, voire même raillé, critiqué, et donc on sait très bien qu'on est très différent en réalité de cette caricature qu'on façonne nous-mêmes, d'ailleurs, soit dit en passant, on est responsable de ça nous-mêmes. Donc voilà, mais a priori non, et pas de crainte, jamais.
Bon, moi je te rejoins, hein. J'ai pas de crainte ni a priori de travailler avec Laurent sur cette commission. Bon, on se connaissait pas intimement, mais on se connaissait, comme tu l'as indiqué, par... On s'est reconnu, on va dire, hein, connu et reconnu, parce que d'abord on est en Corse, parce qu'on on s'est suivi régulièrement, et au-delà des images, effectivement, et des caricatures qui sont le lot d'un parcours politique, et qu'on fabrique même inconsciemment, d'ailleurs, tu as totalement raison. Moi, je n'avais pas de crainte dans la mesure où je savais qu'en termes d'éducation politique et culturelle, en termes éthique et moral sur la conduite de la commission, on allait se trouver au sens de la façon de travailler. Voilà, donc ça, je pense même qu'on a pu donner une petite leçon, sans vouloir être trop prétentieux, à la façon de conduire la commission d'enquête à nos collègues qui ne sont pas forcément insulaires, ou souvent, très souvent, voire, je pense peut-être dans la majorité des cas, hein, lorsqu'il y a un rapporteur ou un président d'une majorité minorité, à la fin, ça finit en eau de boudin où ça ne s'entend pas du tout. Souvent, il y a des chicayas, y compris sur les commissions d'enquête parlementaires très importantes, sur des thèmes importants, on voit finir un conflit... des communiqués du rapporteur, des communiqués du président. Bon, nous, je pense qu'on avait, mais je le savais moi dès le départ, hein, d'abord une responsabilité sur mes épaules que dans le contexte, par rapport à un drame qui a secoué la Corse, qui a secoué une famille, qui a secoué la Corse et qui renvoie à l'histoire tragique de notre pays. Et je crois qu'on avait, et ça je le savais dès le départ, ensemble ce poids sur les épaules et cette responsabilité morale qui nous, déjà nous bordait la conduite du chemin. Et tant mieux pour la cohésion de la société corse, d'une part, et pour ce qui va advenir, si le message de la Commission, de ce point de vue-là, permet d'ouvrir des chemins et de continuer sur ce cheminement-là, de cette cohésion-là, quelles que soient les différences qu'il peut y avoir politiques. À mon avis, il y a l'essentiel. Et je crois qu'on a, montré que sur l'essentiel et qui était suffisamment fort, on a su, du début à la fin, travailler ensemble et conclure ensemble. Effectivement, ça a été, j'ai noté que ça avait été noté ailleurs et en Corse. En Corse, ils disaient, mais comment ça se fait que vous avez réussi? Ben, moi, je répondais, mais je suis étonné que vous soyez étonné. Ça veut dire que vous n'avez pas compris la teneur humaine, morale et politique de ce qui se jouait, qui va au-delà d'une simple participation à l'élection dans cette commission. Donc pas du tout d'a priori. La seule crainte, c'était la crainte de réussir ou d'échouer à arriver jusqu'à éclairer un peu plus sur ce sujet, qui est un sujet grave, mais je pense qu'on l'a franchi ensemble. Et effectivement, hein, on peut pas, quand on fait de la politique, attaquer tous les sujets, et en particulier ce sujet avec des craintes, qui a peur devient peureux, et la peur, ça tétanise. Donc, je crois qu'on était animé sur l'idée d'être volontariste, et on a été volontariste ensemble. Et je crois que c'est un message important pour la politique en général et pour la Corse en particulier, effectivement.
Alors, toujours dans le même. Le fait d'appartenir à deux bords politiques différents ne vous a-t-il pas donné davantage de force et de crédit pour conduire cette enquête? Donc, on est encore dans le.
Forcément. Je crois qu'à un moment donné, toi et moi, je pense qu'on savait que c'était la plus-value, c'était de démontrer qu'il y avait un intérêt supérieur. Et qu'on voulait conduire cet intérêt supérieur et pas par le petit bout de la lorgnette. Je crois que notre attitude, nos discours, nos propos, notre méthode de travail, notre façon d'interroger les gens d'ailleurs, ensemble, à l'audition, ont montré qu'on ne se cachait pas pour le faire, qu'on n'y allait pas de manière craintive et qu'on assumait totalement de converger et que ça en faisait une force morale et politique. Et vis-à-vis de nos interlocuteurs, je crois que. D'abord, de nos collègues de la commission d'enquête, hein, je pense que ça, le fait qu'on soit ensemble comme ça a créé une espèce de, inconsciemment, de ciment. Parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs qu'on a eu une adoption directe et indirecte à l'unanimité, hein, de la conclusion du rapport. Ça veut dire que tous les bancs politiques ont joué le jeu, en y participant ou pas, mais en tout cas, juste de cette cohésion. Ils n'ont pas voulu bousculer cette cohésion. Et ont suivi, bon, s'il y avait eu des choses qui leur auraient déplu, ils se seraient. Évidemment interposé, mais ça a créé une cohésion d'ensemble, parlementaire d'ensemble, et le fait qu'on ait fait de ces différences une force morale et politique y a été pour beaucoup, et effectivement donne une force énorme aux conclusions qui seront ensuite évidemment utilisées certainement dans le débat judiciaire en cours. Bon, je crois que l'un et l'autre, de mon point de vue, on savait que cette divergence était une force.
Ben forcément que ça nous donne du crédit et de la force, parce que d'abord ça nous a donné, je pense, du crédit, notamment ici, chez nous, en Corse, parce que les gens se sont dit, voilà, ils sont capables de travailler ensemble en dépit des divergences qu'ils ont, et que... Je pense que ça a apporté une forme de bol d'oxygène, parce qu'on parlait d'un sujet qui a été particulièrement dur.
Ouais.
Voilà, on ne parle pas d'une commission d'enquête sur un dysfonctionnement administratif lambda. On parle de la mort d'un homme, on parle de ce qui s'en est suivi, notamment en matière de tumulte et de troubles dans la société corse et de violence. Donc, voilà. Donc, ça nous a donné de la force, du crédit ici, je le pense. Et comme le disait Jean-Philippe, ça nous a aussi donné beaucoup de crédit à Paris. Je vais dire un truc que j'ai pas dit publiquement. Un jour, Hugo Bernalicis, qui est un député insoumis particulièrement véhément, c'est une personnalité, hein. Jean-Félix le connaît bien, il est en commission des lois comme lui, et il a un peu participé, il était membre de la commission, même s'il n'a pas été le plus assidu, il est venu quelques fois, quelques réunions, et il me croise à quelques pas de l'hémicycle, et il me dit « Vous n'avez pas conscience à quel point votre comportement, votre duo, donne du crédit au fonctionnement des commissions d'enquête parlementaire, on n'a jamais vu ça. » Voilà. Qui est deux personnes... de la même région, du même territoire, sur un sujet aussi douloureux, difficile, clivant, parce que c'est un sujet clivant, mène les affaires de cette manière, c'est exceptionnel et c'est très valorisant pour le travail du parlementaire. Et d'ailleurs, la conclusion, ça a été que tout le monde a voté. Il y avait Sandrine Rousseau, il y avait des rassemblements nationaux, il y avait des LFI, il y avait tous les partis, tous les groupes représentés, il y a 10 groupes représentés à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que la plupart du temps, le vote unanime est très rare sur les commissions d'enquête parlementaire, parce que vous avez soit le président, soit le rapporteur qui ne sont pas d'accord l'un avec l'autre, et les groupes politiques se forment, et souvent il y a des abstentions, ou du moins il y a des difficultés pour que le vote soit unanime. Et ça a été le cas. Alors que ce que nous disions n'était pas de l'eau tiède. Ah voilà, parce qu'on n'a pas ouvert le robinet d'eau tiède. Donc voilà, je pense que c'est quand même à mettre à notre crédit, justement, et au crédit du fonctionnement d'une enquête parlementaire.
C'est vrai qu'on a vécu un moment de fédération des forces politiques rare. Quand on voit les visages, je vais citer de Sandrine Rousseau au Front National, où ça n'a pas bougé entre eux. Et en fait, ils suivaient le... C'est vrai que ça, peut-être même nous-mêmes, nés dans le guidon, on ne se rendait pas compte tout de suite, c'est ce que tu parles de Hugo Gaulle, et que ça se révèle avec sa plénitude après coup. Non, je crois que, voilà, rien à dire sur ce que tu viens de dire, c'est la réalité. Alors, cette expérience vous a-t-elle conduit à réfléchir à une autre façon de concevoir votre pratique du pouvoir ? Fond de la politique à QI, hein, je vois.
C'était une expérience qui m'a appris. Il est évident que, quel que soit l'événement auquel vous participez, vous sortez modifié, vous sortez enrichi. Donc, ce n'était pas pareil avant d'être rapporteur de la commission d'enquête qu'après, parce que j'ai une expérience supplémentaire. Est-ce que ça m'a amené à réfléchir ? Oui, de toute façon, tout me fait réfléchir, tout le temps, par nature. Que j'y participe ou pas, d'ailleurs, un événement, un film, une musique, une rencontre avec telle ou telle personne, ça me fait réfléchir. Donc, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Mais franchement, sur ma pratique des responsabilités, non. Non, tout simplement parce que avant d'être parlementaire, j'ai été conseiller général, j'ai été maire, j'ai été président d'agglomération et j'ai travaillé avec des gens tout au long de ces années qui n'avaient pas les mêmes idées que moi sur beaucoup de sujets, notamment dans l'exercice de mandat de président de l'ACAPA. Et j'ai toujours essayé de fédérer pour pouvoir aller à l'essentiel et pouvoir porter les sujets ensemble. Ma pratique des responsabilités est beaucoup axée sur le dépassement des clivages traditionnels pour pouvoir aller vers l'objectif et l'atteindre. Donc ça n'a rien changé parce que j'avais déjà cette idée en tête avant de... Vous savez, moi je suis président de groupe lorsque on a la conférence des présidents tous les lundis, c'est-à-dire la présidente de l'Assemblée nous convie pour nous faire part de l'ordre du jour. Et que la présidente de l'Assemblée nous a dit aujourd'hui, le groupe Lyot fait jouer son droit de tirage pour la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les conditions dans lesquelles Yvan Colonna a trouvé la mort. J'ai dit, voilà, c'est ma place, c'est d'y être. Et je voyais la manière dont on allait pratiquer l'expérience avec Jean-Félix, puisque je savais, puisque c'était sa demande, sans préjugé, j'imaginais que ce n'était pas Michel Castellagne ou Paul-André Colombagne, mais que ça allait être Jean-Félix qui allait le faire. Et pour moi, ça n'a pas fait un pli, comme on dit. Donc, non, ça n'a rien changé parce que j'avais déjà ça en tête.
Moi, je crois qu'il y a... En fait, on a convergé naturellement, même si ça peut étonner par ailleurs, dans la commission, parce que, et ta trajectoire, tu viens de le dire, par rapport à tes responsabilités, ta façon de, faire ta de gérer la responsabilité à la CAPA, par exemple, est un exemple. Et ma trajectoire, notre trajectoire dans la mue du nationalisme, parce qu'il y a eu quand même une mue du nationalisme dans les années 80-90-2000, hein, mêlée à un fait générationnel, hein, qui est d'appréhender la chose publique et politique en Corse en particulier, de manière un peu différente de ce qui se faisait il y a 70 ans, hein, au sens des blocs, au sens... nous a conduit à converger naturellement, je vais presque dire instinctivement et naturellement, à la façon de travailler, sans se poser de questions à la Commission, et nous conduit, enrichi de la Commission, à poursuivre cette réflexion par petites touches. C'est normal, c'est et humain et politiquement souhaitable qu'on tire toutes les conclusions d'un moment qui nous enrichit, peut-être nous a pas laissé indemne sur certains aspects, et qui fait qu'à un moment donné, la poursuite de convergence possible puisse se traduire, parce qu'on sait tous qu'on vit une période particulière en Corse, économique, sociale, culturelle, politique, qu'on est sur un chemin de crête et qu'il faut que l'on soit de ceux, en tout cas, je pense qu'on a cet état d'esprit-là, qui construisent une voie qui permette de donner une plus-value dans cette île et une solution et des solutions qui permettent de dire qu'on a changé d'époque sans rien de renier du passé en s'en inspirant et qui construisent une nouvelle cathédrale aujourd'hui dans l'île avec des moyens d'affronter les dangers, les problèmes, les tensions et de construire un pays heureux. Je crois qu'on est animé de ça. Je crois qu'on a cet état d'esprit globalement, malgré les différences qui peuvent exister ici ou là, dans la valeur de la trajectoire politique qui est la tienne et qui est la mienne, on est guidé par ça. Donc on est guidé par ça. C'est pour ça que ce n'est pas une surprise pour nous deux. Ça l'était peut-être extérieur, mais finalement on se rend compte que non, que l'on ait travaillé de cette façon-là pour la commission d'enquête sur un sujet grave et difficile. La question d'après, c'est la prolongation de ça. Ça se pose à nous, ça se pose aux gens qui le regardent, mais quoi de plus positif au sens du moment que l'on vit? On est en train de marcher sur ce chemin, je ne sais pas ce qui donnera, mais je pense qu'il y a le fait générationnel, la trajectoire humaine et politique qui est la tienne, qui est la mienne, et d'autres qui sont un peu dans cette logique-là, nous permet d'apporter quelque chose au moment qui est le nôtre aujourd'hui. Hein. Parce que si vous voulez, comme je dis, il ne nous guère pas ça. Hein, moi, je me regarde, j'ai déjà 50 ans, je me dis, j'ai l'impression d'avoir 18 ans. J'ai 50 ans. Hein. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, tu dis, le temps passe, et le temps qui reste pour laisser quelque chose qui donne de cette plus-value nous fait optimiser notre façon d'agir. Hein. Voilà, donc, je raisonne comme ça à l'échelle humaine et politique, et je crois qu'on partage cet état d'esprit.
Alors, d'ailleurs, votre question, c'est, ne pensez-vous pas que les électeurs soient aujourd'hui en attente de ce partage de responsabilités en bonne intelligence pour davantage d'efficacité?
Je crois que les Corses veulent d'abord des solutions, une solution, une perspective, un espoir concrétisé. Ils veulent du concret, c'est la gestion du temps pour concrétiser les choses. Et je pense qu'effectivement, ils veulent sortir du conflit permanent, voire de la violence, de la tension lourde, et avoir une plage de stabilité. Et intrinsèquement, ça va par une... Ils savent très bien, parce qu'on est un peuple très politique, hein, très politique, que ça passe par des contrats politiques et des convergences fortes entre les hommes qui portent différentes trajectoires, les hommes et leurs projets, hein, évidemment. Et ils se rendent compte que c'est possible aujourd'hui. Bon, ces questionnements-là qui paraissent naturels aujourd'hui, est-ce qu'ils étaient posés de la même façon il y a 40 ou 50 ans? Je ne le crois pas. Non. Voilà. Même 30 ans. Donc ça veut dire qu'on est dans un moment dont il faut saisir la plénitude et entre ce que peut être porté par des gens qui sont investis, l'attente lourde qui pèse sur les épaules en termes de responsabilité, évidemment, mais qui est là et qui va dans ce sens.
C'est souhaité par une majorité de gens, très largement. Je crois qu'effectivement, les citoyens, ils ont un peu soupé des querelles ici et ailleurs. Hein. Ils voudraient quand même que tout ce monde politique, à un moment, se mette autour d'une table pour pouvoir prendre un certain nombre de décisions les plus consensuelles possibles afin d'être efficace, de régler les problèmes et plutôt d'additionner les compétences plutôt que de les confronter, voire même de faire en sorte qu'elles s'affrontent. Donc oui, moi je pense que les gens sont plutôt ravis, heureux de voir les femmes et les hommes politiques converger en dépit des différentes positions politiques qui sont les leurs. Ceci étant dit, j'apporte un bémol. Le problème qui peut se produire, c'est que vous avez les empêcheurs de tourner en rond qui rétabliront toujours le clivage et qui peuvent profiter des attentes des ententes et de ce que fait le consensus. Je m'explique, vous aurez toujours le type qui va arriver et qui va essayer de faire un peu commerce électoralement parlant, politiquement parlant, en se décalant et en disant « mais moi, je ne suis pas pour le consensus, je suis pour le clivage ». Et comme on est dans une société qui est quand même assez abîmée, il va se faire un peu sa côte, ou elle, d'ailleurs, ça peut être une femme, hein, c'est pas pour les messieurs que ça existe, et donc être un peu la mouche du coche, et avec en espérant... C'est un peu ce que fait Mélenchon en ce moment. Voilà, je le dis. Il empêche les consensus sur un certain nombre de sujets en étant très violent, très virulent dans ses positionnements, lui et ses amis, hein, lui et celles et ceux qui le soutiennent. Et je pense que son calcul, outre le fait qu'il s'adresse à un segment particulier de l'opinion lorsqu'il dit ce qu'il dit, c'est aussi de se dire « les gens me reconnaîtront comme étant... à la hauteur, et j'aurai un retour sur investissement, si je peux permettre l'expression, dans cette position. » Et c'est d'ailleurs ce que faisait Le Pen à l'époque, Le Pen père à l'époque.
Bien sûr.
Et on voit bien qu'aujourd'hui, Marine Le Pen essaye d'avoir une autre attitude, même si elle reste ce qu'elle est. En réalité, voilà, il y aura toujours quelqu'un qui arrivera et qui dira, et qui fera des voix, parce que le consensus, il laisse toujours des gens un peu sur le bas-côté, et ils se diront, je vais plutôt croire celui ou celle qui n'est pas d'accord avec le consensus. Ce que je pense, à titre personnel, c'est que c'est mieux aussi de se mettre d'accord et travailler ensemble parce que c'est ce que les gens, la majorité des gens demandent.
Bien sûr. Alors, qu'avez-vous appris l'un de l'autre que vous ne soupçonniez pas avant cette commission? Quelle est la principale qualité que vous vous reconnaissez mutuellement?
Appris l'un de l'autre que je ne soupçonnais pas. Rien, parce que j'arrive sans a priori et je ne le connaissais pas. Donc, je n'avais pas de mauvais a priori ni de bon a priori, il faut être totalement honnête. Donc, je ne soupçonnais rien. Voilà, j'ai appris que c'était quelqu'un qui travaillait, qui avait ses convictions, mais je le savais déjà. Donc, je savais que c'était un homme de conviction qui s'engageait jeune dans la vie politique, dans la vie publique, syndicale et militante. Donc ça, je le savais. Après, je savais que c'était quelqu'un qui avait du caractère, parce que là aussi, on se connaît tous. Et je l'ai vu à l'occasion des travaux qu'on a menés, qui suivaient sa ligne. Et d'ailleurs, la qualité que je le reconnais, c'est qu'il suit sa ligne. Voilà. Il a un chemin et il ne l'abandonne pas. Qu'importe d'ailleurs l'interlocuteur ou l'interlocutrice qu'il va avoir en face, il ne dévie pas de la conviction qui est la sienne. Sans pour autant foncer comme un dératé, sans réflexion et sans retenue, il va tracer par rapport à la conviction qui est la sienne. Et ça, je crois que c'est sa principale qualité. Et ça peut être particulièrement utile lorsqu'on fait de la politique parce que je vois beaucoup de gens qui tergiversent ou sinon qui changent en cours de chemin. Mais en tout cas, on voit chez Jean-Félix qu'il y a une rectitude dans le positionnement et surtout sur la commission d'enquête, c'était particulièrement essentiel que le président de la commission d'enquête parlementaire ne soit pas quelqu'un qui varie avec le temps, mais qui ait quand même quelques bases solides. Donc ça, c'est vraiment une qualité qui est très importante chez lui.
Écoute, merci pour ton propos. Je vais te renvoyer le propos de la rectitude. Moi, je n'ai pas de soupçon particulier. Là, je rejoins ton propos te concernant, parce qu'il n'y a pas d'a priori. Et j'étais même heureux, effectivement, que tu sois candidat rapporteur. C'était naturel. Donc là-dessus, je crois que la question de soupçon avant n'est pas l'objet de la question, l'objet essentiel de la question. Sur les qualités, je connaissais de ton parcours les qualités de caractère aussi, hein. De caractère aussi, donc ça, elles étaient connues. On partage ça, je crois, vu de l'extérieur, pour ceux qui nous aiment ou qui ne nous aiment pas d'ailleurs. Je crois qu'on nous reconnaît d'avoir des caractères assez bien trempés, hein, dans certaines situations. Mais pour moi, c'est une qualité en politique, je pense. Hein. Après, je crois que ça démontre aussi que humainement, on ne change pas. Donc c'est important. C'est très important. Après, moi, je dois reconnaître que tu as, de mon point de vue, je pense que tu as tenu bon parce que ta place n'était pas la mienne. Moi, je suis opposition, je suis député nationaliste. J'avais évidemment un fil, nous avions un fil commun, finalement, c'était la vérité et la justice. On a partagé cette éthique de méthode. Hein, je pense que on ne sait pas leurrer l'un l'autre, on n'a leurré personne sur la façon de travailler. Mais je pense que tu as dû, sans vouloir déflorer quelques secrets qui ne sont pas déflorés là, tenir bon face à beaucoup de questionnements ou d'assauts de ceux autour de l'appareil d'État qui, à des moments de soubresauts liés à la Commission, ont dû peut-être essayer de voir si Laurent Marcangeli était approchable. Et je ne doutais pas que tu tiennes bon, mais il est évident que tu as tenu bon au sens moral. Mais en même temps, c'est une qualité morale que je percevais chez toi, qui s'est révélée encore une fois, on va dire, à ce moment-là. Et j'avoue que c'est très agréable de travailler avec des gens et quelqu'un comme toi qui garde des qualités morales à des moments clés. Parce que je pense que c'est ça qui fait la différence en politique. Quand il n'y a pas de qualité morale de base, on ne peut pas franchir de Rubicon en convergence ou seul. Lorsque le sol se dérobe sous les pieds, au moment où s'y attend le moins, par exemple, donc une défaillance de valeur pour des choses externes qui arrivent, c'est ce qui nuit d'ailleurs à la politique en général et à la vision qu'ont les gens. Nous, je crois qu'on a donné cette image, et toi en particulier, parce que je sais que ta place n'était pas la mienne. Tu étais de la majorité présidentielle sur une affaire issue de l'ancien mandat, qui était un mandat de Emmanuel Macron, même si toi, tu n'étais pas élu, hein, avec des coups partis liés au gouvernement de l'époque. Hein, quand même une continuité du deuxième mandat, et que dans, à des moments clés de la Commission, ça a secoué, il faut dire les choses comme elles sont, hein, ça a secoué, et tu as fait bloc naturellement sur tes valeurs morales, sur ta personnalité, et ça, c'est une immense qualité. Je le dis clairement.
Merci, ça me touche beaucoup. On peut parler des soupçons que les uns et les autres pouvaient avoir, pas nous. Les soupçons qu'on pouvait avoir par rapport à moi, Jean-Félix l'a plus ou moins décrit en creux, c'est que j'étais peut-être, pour certains, extérieur à nos travaux, observateur, militant, une forme d'agent double qui allait essayer de retenir le député Acquavive dans sa quête, puisque...
Moi, je n'ai jamais douté
voilà.
de ça. Hein.
Et d'un autre côté, certains pouvaient dire Acquavive veut faire péter la République.
Voilà, oui.
Il est dans un exercice terroriste intellectuel, puisqu'il veut démontrer que l'État a mené un complot pour supprimer Yvan Colonne et que, voilà, donc... Moi, ce que j'ai fait, évidemment qu'il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi est-ce que j'allais mettre les pieds là-bas. Évidemment qu'il y en a certains qui ont... Moi, je leur ai dit, c'est ce que j'ai toujours dit, je leur ai dit que quand ça avait attrait à la Corse, qu'il ne fallait pas venir me demander quoi que ce soit. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait durant mon premier mandat, entre 2012 et 2017. Par exemple, lorsque... Vous savez, quand j'ai décidé, en août 2012, de monter au Durnat à Corté, ça n'a pas forcément plu à l'UMP.
Certainement.
Je leur ai expliqué que c'était ma manière de voir les choses et que si c'était à refaire, je le referais.
Bien sûr.
Et d'ailleurs, 11 ans après, si c'était à refaire, je le referais parce que j'ai réécouté dernièrement ce que je disais à l'époque. Je n'ai rien à changer, même pas une virgule de ce que j'ai dit. Donc voilà, les soupçons, pas de mon côté et donc visiblement aussi et très certainement pas du côté de Jean-Félix, mais je comprends. Qu'à un moment, à l'extérieur, les gens, parce que les gens voient des complots parfois là où ils n'y sont pas.
Exact.
Ouais. Ils ont dû se dire, voilà, Laurent arrive pour cornaquer la démarche parce qu'on a dû lui passer le message au niveau du gouvernement parce qu'il est président d'un groupe de la majorité présidentielle. Et de l'autre, je sais très bien que d'autres disaient, qu'est-ce qu'il va faire, Acquavive ? Il va essayer de faire le scandale permanent pour qu'il y ait le feu et le sang dans les rues d'Ajaccio, de Bastia et de Corté. Donc il a été ni l'un ni l'autre. Et pour certains qui s'étaient amusés à me poser la question sur ce que voulait Jean-Félix, moi, je leur répondais, non, il mène sa charge. Il le fait avec pugnacité, mais il le fait avec justesse. Voilà,
on a essayé.
Voilà. Moi, j'aime bien l'expression « faire de son mieux ».
Voilà,
on a fait de notre mieux.
On a fait notre mieux.
Et on l'a fait en étant accroché à un certain nombre de valeurs, notamment morales, qui, à mon avis, sont essentielles. Pensez-vous que cette expérience modifiera à l'avenir votre manière de travailler ensemble sur d'autres sujets relatifs à la Corse, notamment dans le contexte de négociations engagées avec Paris sur le nouveau statut ?
Je crois que poser la question, c'est déjà y répondre. Et il est évident que c'est un secret pour personne et qu'on échange sur la question de travailler sur le projet pour la Corse, dans son affinage, dans les derniers détails et dans l'idée de trouver les points d'équilibre essentiels à ce qui donnerait l'espoir à ce pays et en faisant en sorte de converger sur quelque chose qui ait du sens. Et donc, ça suppose la capacité à faire des compromis politiques. Mais je pense que Laurent n'a pas peur de faire des compromis. Et moi, j'ai toujours dit aussi dans ma carrière politique que la quintessence de la politique, c'est de faire des compromis. Un compromis, ce n'est pas la compromission, c'est la construction d'un édifice par dialogue qui permet de laisser quelque chose qui ait un sens de transformation dans ce qu'on entame comme sujet. La Corse est le sujet historique et politique qui nous passionne et qui est notre histoire politique et humaine. Je crois qu'on y met tout notre sérieux et notre cœur parce que c'est chez nous. Hein, c'est pas, on ne parle pas simplement là de la retraite ou des 35 heures qui sont des sujets importants. On parle de l'avenir, un peu humain, territorial, sociologique, politique, tout ce qui nous a bercés. Et on est en train de travailler là-dessus. Je pense que c'est un secret pour personne. Ou du moins, si les gens attendaient qu'on le dise clairement, je pense que moi, je n'ai pas peur de le dire clairement. Et je n'ai pas peur de dire que c'est ce chemin-là qu'il faut privilégier. Est-ce qu'on va y arriver ? Moi, j'ai confiance. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a, malgré les contraintes, malgré ceux, et Laurent a raison, qui vont vouloir se faire une clientèle de détruire le processus de convergence, c'est un politique, ça a toujours existé et ça existera là. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même une aspiration, une attente des hommes et des femmes en capacité de prendre leurs responsabilités et une occasion qui au moins avant 20 ans ne se reproduira pas en cette forme-là. Et donc c'est là qu'on appelle à une responsabilité. Le chemin sera difficile. Hein. Il y aura encore après les modalités d'arriver aux décisions constitutionnelles, juridiques et législatives qui feront qu'on arrivera. Mais je crois qu'on le sait, et on y va, encore une fois, sans a priori, et franchement, j'ai confiance.
Bon, moi, je suis retourné à l'Assemblée nationale parce que je considérais que ce que nous vivions en Corse nécessitait qu'il y ait une voix dans la majorité présidentielle qui soit forte pour porter... la voix de la Corse au sein de cette majorité, et notamment à travers la question de l'assassinat d'Ivan Colonne et la question des évolutions institutionnelles qui avaient été annoncées par le ministre de l'Intérieur au lendemain de l'assassinat d'Ivan Colonne. Parce que le premier mandat présidentiel d'Emmanuel Macron n'a pas été bien mené sur les questions de la Corse, je l'ai dit publiquement, ce n'est pas que de sa responsabilité, nous y sommes tous mis hein, pour que ça ne se fonctionne pas bien, il y a des parts d'erreur de toutes parts, et que je souhaitais que ce deuxième mandat réussisse pour la Corse avant tout, hein, et réussisse pour les Corses. Quand j'ai candidaté pour être rapporteur de la commission d'enquête parlementaire, je l'ai fait aussi en pensant au processus de modification du statut et des réflexions autour de l'orientation de la Corse pour les prochaines années, les prochaines décennies. Et j'ai fait ma campagne là-dessus. Moi, mon slogan avec Xavier Lacombe, c'était « la Corse unie ». Voilà. Là, je tourne dans ma circonscription depuis plusieurs jours. Je serai demain à Piane, à Calcatode et à Casalione. J'échange avec les gens et je leur rappelle que l'année dernière, lorsque je suis allé les voir, je leur avais dit avec Xavier Lacombe, nous sommes d'une coloration politique, mais une fois que je serai député, que je retournerai à Paris, j'aurai une voix qui pèsera au sein de la majorité présidentielle. J'avais déjà une petite idée sur la fonction que j'allais exercer, on ne va pas non plus se raconter d'histoire. Je savais qu'il était probable que je sois président de groupe parlementaire au sein de cette majorité et je voulais que ça soit facilitateur pour la Corse. Et en aucun cas et à aucun moment, je me suis dit, je vais le faire en contradiction avec Gilles Simeone et ses amis. Mmh. Qui est président de l'exécutif. Mmh. Et qu'au contraire, il faudra créer des voies de convergence parce que c'est ce que les Corses, je crois, dans leur grande majorité, attendent.
Bien sûr.
Donc voilà, on l'a fait sur la commission d'enquête. Là, maintenant, on est sur une discussion qui est complexe, qui n'est pas simple, mais qui a, je le pense, d'un point de vue assez partagé, par les femmes et les hommes de bonne foi, a plutôt débuté dans de bonnes conditions. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu ne pas exister. Il aurait pu avoir une sortie de route complète dès le départ. Mm-hmm. Et la visite du président de la République, de ce point de vue-là, a été plutôt bonne, je le pense. Bon, maintenant, nous avons la charge, la responsabilité de passer une nouvelle étape de ce processus en matérialisant les propositions, en vue qu'elles soient soumises au peuple, dans un premier temps, et puis ensuite au Parlement auquel nous appartenons, dans un second, si le peuple nous suit dans la démonstration. Donc on va voir. Moi, vous savez, quand Jean-Félix ne me contredira pas, parce qu'il le sait, quand je parlais après lui, parce qu'il ouvrait toutes les auditions, je parlais évidemment moi aussi aux gens que nous auditionnons, et je leur disais, le président et moi, peut-être ne serons pas d'accord sur les conclusions de la commission d'enquête, et ça sera écrit noir sur blanc, parce que ça arrive. Je disais jamais aux gens qu'on était sûr de tomber sur un accord complet. Ouais. Et d'ailleurs, je pensais même que nos collègues parlementaires, dans la diversité de leurs opinions, de leurs expressions, allaient peut-être aussi mettre des bémols sur ce qui allait être écrit in fine. Bon, au final, sur un sujet très, très, très dur, très lourd, humainement très, très prononcé, et politiquement quand même pas anodin du tout, on a conclu de manière commune, et tout le monde nous a suivis.
Bien sûr.
Tout le monde. Donc je dis que pour ceux qui sont dans cette espèce de fatalisme permanent en disant « ça ne marchera pas, c'est trop compliqué et chez nous ça ne marche jamais, etc. », je leur demande juste de regarder ce qui s'est passé sur cette commission d'enquête parlementaire et ensuite ce que nous faisons chacun de notre côté, parfois de manière très établie publiquement, parfois de manière moins bruyante, pour faire en sorte que ce processus qui est en train de se dérouler soit une réussite in fine. Voilà. Et c'est vrai que la commission d'enquête parlementaire, elle a été, de mon point de vue, pas une forme de répétition, mais une forme de mise en situation que j'appelais de mes voeux pendant la campagne et que je rends concrète, notamment avec Jean-Félix à l'Assemblée nationale, depuis plus d'un an.